comprends que tu es un peu dépassé vu la complexité de ce motif cachant le diable dans le jardin. Et donc, je vais donner tout de suite la parole à Isabelle Dumas. Okay, alors, je vais à Gisèle
Dumas.
À Gisèle Dumas. Il va parler, je crois, d'un autre motif, mais moi j'ai un vieux programme limité à définir, donc je ne peux pas en dire.
Bon, je vais peut-être recommencer en attendant que ma chose se projette. Donc je vous propose une petite réflexion sur rythme et prédication dans le motet Super Cathédrale Presidentes Ruina que l'on trouve dans le roman de Fauvel, dans le cas dans le manuscrit français 146. Ma réflexion va être axée essentiellement, après une présentation générale et succincte de ce motet, sur la partie de triple. Donc c'est un motet à trois voix, avec la teneur écrite ici, la partie de double écrite ici, et la partie de triple qui commence ici, qui se poursuit sur cette colonne et puis sur toute cette partie. Voilà. Donc je vais essayer de réfléchir sur la question du rythme, du rythmus, comme on disait tout à l'heure, en tant que modalité du faire croire. Le point de départ de ma réflexion est celui-ci. Certains motets conservés dans le 7e fascicule du manuscrit de Montpellier et certains autres motets conservés dans le roman de Fauvel, ce n'est pas le cas de tous, hein, mais des motets de ce type-là. Donc ce sont des motets qui ont dû être composés à la fin du XIIIe siècle ou au tout début du XIVe, utilisent dans leur partie de triplum une notation rythmique que les musicologues appellent pétronienne. Vous me dites si j'en donne une définition ou si je passe. La notation pétronienne est une, amélioration entre guillemets de ce qu'on appelle juste avant la notation franconienne, due au traité de Franconne de Cologne. Dans la notation franconienne, la théorie, en tout cas, de cette notation définit l'usage de six modes rythmiques fondés sur l'alternance des longues et des brèves. Donc dans la deuxième moitié du XIIIe siècle à peu près, ou dans le dernier tiers, c'est la notation qui est utilisée pour noter la musique mesurée. Bien entendu, il s'agit de musique mesurée, hein, avec un tactus régulier. Ces modes rythmiques dans le cadre de la notation franconienne donc font alterner longue-brève, brève-longue, longue-brève-brève, etc., trois longues ou trois brèves. Avec la graphie, la note carrée avec la hampe pour la longue et la note carrée sans hampe pour la brève. Ce sont les deux valeurs de base, sachant qu'une longue plus une brève forment la perfection. Ce qu'on appellerait aujourd'hui une mesure, et ce que les éditions en notation moderne, entre guillemets, transcrivaient jusqu'il n'y a pas très longtemps par des mesures à 3, 4 ou à 6, 8 selon la division interne. Lorsqu'il intervient dans le cadre de la notation franconienne des valeurs rythmiques plus petites, c'est-à-dire des semi-brèves, et ça n'allait que jusque-là, c'est en forme d'ornement sur une seule syllabe. Parce que lorsque je parle de brève ou de longue, c'est la durée affectée à la syllabe. À la fin du XIIIe siècle, dans la notation franconienne, si on a trois semi-brèves, c'est une façon de chanter la brève. La syllabe dure toujours le temps d'une brève, simplement elle est ornée, elle est brodée. Voilà. Alors, qu'est-ce que la notation pétronienne vient apporter par rapport à ça ? Eh bien, pourquoi pétronienne ? Parce qu'on l'attribue à Pierre de la Croix, clerc, compositeur, théoricien de la toute fin du XIIIe siècle et du début du XIVe siècle. Et Pierre Delacroix utilise un petit point, le punctum divisionis, dont il se sert pour indiquer le nombre de semi-brèves mis pour la valeur d'une brève. La différence avec la notation franconienne, c'est que dans ce cas-là, chaque semi-brève chante sa propre syllabe. Ce qui fait qu'on sort complètement du système de la logique des modes rythmiques. Puisqu'une syllabe peut valoir une longue, peut valoir une brève, et peut valoir une semi-brève qui elle-même a des valeurs, des durées différentes, selon qu'il y a deux semi-brèves pour une brève, trois, quatre ou jusqu'à sept. Alors, je tiens tout de suite à préciser que ce motet super cathédrale n'est pas du tout dit de Pierre Delacroix. Il n'en demeure pas moins que la notation est la même. C'est-à-dire une teneur en notation franconienne, une partie de duplum en notation franconienne, ici en troisième mode, long, bref, bref, pam, 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 etc. Et le triple, comme chez Pierre Delacroix, en notation pétronienne. Dans leur notice Petrus de Cruce, donc Pierre Delacroix, Ernest Sanders, dans le dictionnaire, le New Grove Dictionary, etc., Ernest Sanders et Peter Lefert soulignent à juste titre le caractère parlando de la voix de triple des motets de Pierre Delacroix. Et encore une fois, c'est tout à fait similaire à celui-ci. Donc effectivement, je sais, enfin, ça fait un petit moment qu'on a chanté les motets, je ne sais pas si vous les avez toujours en mémoire, mais l'usage, comment dirais-je, le texte et la mélodie tels qu'ils sont notés, lorsqu'on les chante, ça donne quelque chose d'extrêmement déclamatoire. D'où le terme de parlando. Mais un peu plus loin, dans leur article, ils écrivent « La structure fortement irrégulière des vers français, bon ici ils sont latins, avec leur rythme et leur déclamation précipitée, semble tout à fait capricieuse et s'approche souvent de la prose rimée. D'une façon plutôt romantique, la musique est principalement orientée vers la déclamation de virtuose. Généralement, ces motets, avec leurs teneurs informes, résistent à toute recherche analytique de structures syntagmatiques rationnelles. » Voilà. Donc, c'est une déclamation capricieuse. Voilà. Personnellement, ça me laisse sur ma faim, je dirais un peu vulgairement, hein, ça ne m'apporte pas grand-chose pour comprendre ces pièces-là. Donc, je vais tenter de montrer dans le cas précis de ce motet que ce type de déclamation fait sens par rapport au texte, qui est donc ainsi déclamé. En appuyant mon propos sur le motet Super Cathédrale du roman de Fauvel, qui utilise cette notation pétronienne dans sa partie de triple. Alors, où se situe ce motet dans le roman de Fauvel? C'est la quatrième insertion musicale. Le roman de Fauvel, dans la version du manuscrit 146, contient à peu près 160 insertions musicales. Il s'agit de pièces plus anciennes, liturgiques, des motets du XIIIe, ou de pièces contemporaines du roman de Fauvel, en particulier les motets de Philippe de Vitry. Hein. Et puis, ce motet-là, dont on ne sait dire s'il a été composé pour Fauvel, ou s'il a été composé auparavant et interpolé dans Fauvel. Donc c'est la quatrième insertion musicale, c'est d'ailleurs quatre motets, hein, les quatre premières insertions. Il est copié dans la première partie du roman, car Monstrubel est défini comme le prélude Fauvel au palais, entre les vers 62 et 63. Donc très rapidement, le premier motet donne une définition de la Fauvellerie, ensuite il y a une miniature, les vers 1 à 34 montre le narrateur contempteur qui sombre dans la mélancolie à cause de Fauvel qu'il voit bouchonner et trier tout en douceur, puis une seconde miniature. Le second motet explique combien le monde est souillé. Le troisième motet explique que cette situation de malheur est créée par Fauvel. Les vers 35 à 43 font référence à la population qui va des nobles jusqu'au peuple population qui étrille, qui bouchonne, qui caresse Fauvel, miniature 3. Vers 44-62, même chose, mais au sein de l'Église, du pape aux abbés. Motet, super cathédrale, presidentes ruina, sur lequel je vais revenir. Vers 63-68, adresse ironique aux dominicains et aux franciscains, qui étrille Fauvel, miniature 4. Et enfin, les vers 65-96, c'est une adresse aux autres membres de l'Église, des augustins jusqu'aux clercs qui n'ont pas de prébende et qui attendent, tout en bouchonnant Fauvel, que fortune tourne un jour à leur avantage. Ensuite, l'auteur entreprend la description des différentes manières de caresser Fauvel, en commençant par celle du pape. Donc voilà comment se situe dans le roman ce motet, au moment où on parle de l'Église et avant qu'il y ait l'interpellation des dominicains et des franciscains, autrement dit des réguliers. Alors, du point de vue de l'analyse littéraire et rhétorique de ces textes, la teneur est une teneur d'origine liturgique, hein, comme c'est absolument la norme à cette époque-là. Elle est chantée sur le petit mot « ruina », la ruine, le désastre. Je n'ai pas encore tout à fait élucidé quelle est la pièce liturgique qui est à l'origine, enfin, dans laquelle on a pris ce petit mot. Il y a deux textes liturgiques, hein, il y a une antienne à Saint-Michel et il y a un répond de la couronne d'épines. Sauf que dans les manuscrits du diocèse de Sens qui contiennent l'office de la couronne d'épines, il n'y a pas ce répond. Mais on le trouve dans un manuscrit de Perugia. Voilà. Mais la formule mélodique, elle n'est pas très éloignée, mais elle n'est pas très proche non plus. Donc je pense qu'il faut chercher d'autres brévières pour trouver, si on peut, l'origine exacte de cette teneur. En tout cas, le texte est ostensiblement « ruina », qui est le mot sur lequel s'achève la partie de Dupfum. La couronne d'épines ferait plus sens que Saint-Michel, je pense, hein, en termes de... Puisqu'un motet, comment dirais-je, c'est une façon de donner différents niveaux de sens à la teneur. Le Dupfum. Je vais vous afficher les textes. Ça c'est mon magnifique selon Isabelle. Ah, vous les avez, oui, d'accord. Donc je ferai la même remarque qu'Isabelle d'ailleurs à propos de la structure littéraire de ces textes. Hein. Je les ai disposés grâce au rythme en poème versifié, mais bien entendu sur le manuscrit ça n'apparaît pas du tout comme tel, pour exactement les mêmes raisons que celles qu'a exposées Isabelle. Hein. C'est que la musique du motet se déroule du début à la fin sans aucune reprise mélodique. C'est un motet isorythmique lui aussi, c'est-à-dire que la teneur fait entendre deux fois le schéma mélodico-rythmique, hein, et quatre fois le schéma rythmique. Donc il y a deux colores et quatre talées. Donc ce Dupfum fait entendre la voix du prophète très clairement, lequel, dans un discours sérieux mais distancié, fait un constat presque abstrait de la déchéance de la société. Il se compose donc de cinq strophes que vous voyez. Le premier color correspond aux cinq premiers vers, le second aux cinq suivants. La dimension prophétique apparaît à la fin, hein, lorsqu'il dit quel est l'effet, je l'ai assez souvent prédit, proche est le désastre, propeest ruina, qui fait écho tout à fait à la teneur. C'est un jeu sur la rhétorique, en particulier sur les métonymies, ruse, rapine, et sur l'antonomase. Il procède aussi par gradation. Dans l'exposition, ruse et rapine ont pris le pouvoir. Ensuite, les détenteurs du pouvoir temporel et spirituel sont montrés comme ayant cédé leur place. C'est l'argent et l'avarice qui les remplacent. On a ensuite une image du sang, qui est la citation du psaume 118, versets 22-23, cité en Matthieu 21-42, c'est-à-dire référence à la parabole des métayers révoltés. Ce sont les pharisiens qui sont visés, et on les retrouvera dans le triploum. Là aussi, les deux textes font écho l'un à l'autre et se répondent sur la même thématique. Et enfin, la prophétie à la fin, le désastre est proche. L'espoir réside certainement dans la couronne d'épines, en tout cas c'est ce que je crois penser, dont il est question vraisemblablement à la teneur. Alors, là c'est un peu rapide, je l'avoue, mais je vais m'arrêter davantage sur la partie de triple. Je remercie Isabelle d'ailleurs pour la traduction des textes.
Je ne sais plus si des amis.
Non.
Vous auriez pu préférer le don.
Non. Donc si le doubloum fait entendre nettement la voix du prophète, le triploum, lui, fait entendre la voix et la parole du prêcheur. Le texte supercathédrale est manifestement construit sur le modèle d'un sermon tel que les artes predicandi le définissent. L'auteur expose d'abord le thème, super cathedra Moïsi, puis, comme procédé de développement, il fait appel à des autorités, c'est-à-dire que chacune des deux divisions du sermon va s'appuyer sur une autorité. Et ces autorités, comme le thème, sont empruntées, comme il se doit, à la Sainte Écriture, en l'occurrence à l'Évangile de Matthieu. À ces autorités, l'auteur greffe des considérations rationnelles qui, selon Thomas Wailes, sont la manière de développer la plus belle et la plus difficile. Enfin, le discours s'achève sur la péroraison qui contient l'appel à la conversion de ceux auxquels le sermon s'adresse. Tant dans les propos que dans la manière de les dire, que la musique vient souligner ou parodier, on va le voir, l'auteur met en place une machine à dénoncer et à convaincre grâce à une argumentation implacable. À ce sujet d'ailleurs, les artes predicandi soulignent l'importance du débit, c'est-à-dire à la fois de la voix et des gestes, des mouvements du corps, pour que le sermon atteigne son but. On sait que lorsqu'elle est claire et saisissante, la façon de dire profite plus à l'auditoire que les choses qui sont dites elles-mêmes. Donc très rapidement, à l'analyse du texte, on peut y voir un poème rimé, donc 36 vers, octosyllabes. Une première partie, depuis le thème jusqu'à la fin de la première division, 6 strophes, 2-3 vers octosyllabiques, avec rime AAB 3 fois, CCD 3 fois, le tout sur la première occurrence de la teneur, c'est-à-dire sur le premier color. Une seconde partie sur le second color de la teneur. Ici, il y a beaucoup moins de régularité. On a plus 6 strophes de 3 vers, mais une alternance de strophes de 3 et 2 vers. Si je m'en réfère aux pauses qui clôturent chaque strophe. Et les rimes, ça fait EEF, FE, GGH, GH, GGI, GI, KLK. Moins de régularité, ou beaucoup plus d'irrégularité donc, alors qu'il s'agit, dans cette partie-là, de l'invective contre les réguliers, précisément qualifiés d'hypocrites. Donc du point de vue de sa construction rhétorique, le thème « Super cathedra Moïsi » est tiré de Matthieu 23, 2, la chair de Moïse qui correspondait à l'autorité officielle. Jésus reconnaît l'autorité des scribes qui appartenait le plus souvent au parti des pharisiens. Et c'est précisément à l'endroit de l'invective contre les pharisiens. Alors Jésus s'adresse aux foules et à ses disciples. Les scribes et les pharisiens siègent sur la chair de Moïse. Super cathedra Moïsi fait aussi référence au décret de Boniface VIII du 18 février 1300 sur les prêcheurs. C'est ce décret qui limite l'action des mendiants à la confession et à la prédication en les soumettant dans une certaine mesure au contrôle et à la juridiction de l'ordinaire. C'est-à-dire que pour avoir le droit de prêcher et de confesser, ils doivent demander l'autorisation au prêtre de la paroisse. Ce décret sera suspendu par Benoît XI à 1304 et renouvelé par Clément V. Je rappelle que, dans l'organisation du roman, ce motet est placé juste avant l'invective aux dominicains et aux franciscains. Ce discours est donc une critique acerbe de l'hypocrisie des prélats dans la première division, autrement dit des évêques, et des réguliers dans la seconde. Sous la forme de ce qu'Hervé Martin appelle une énonciation interpellante, hein, c'est-à-dire on va voir que l'auteur dit « vous » régulièrement. La première division, dénonce l'hypocrisie des prélats. Elle s'appuie sur une autorité, Matthieu 23, 3, « ce qu'ils vous disent, faites-le, mais ne faites pas ce qu'ils font », invective contre les pharisiens. La deuxième division dénonce l'hypocrisie des réguliers, dans des termes, dit l'auteur lui-même, pire que pour les prélats. Elle s'appuie sur une seconde autorité, Matthieu 7, 15, « de faux prophètes viendront en habit de brebis, mais à l'intérieur, ce sont des loups rapaces ». La péroraison démarre sur « ut tamen » et comprend l'appel à la conversion, à moins que ces tordus ne se soient redressés. Donc dans ce sermon, la polémique l'emporte sur l'appel à la conversion. Les références à Matthieu 23 lui confèrent une ironie grinçante, les pharisiens représentant au Moyen-Âge l'anti-idéal dans l'imaginaire chrétien. J'en viens maintenant à une analyse, je dirais, plus technique de la manière de débiter dans cette mélodie de Triplou ce texte. Donc si l'on suit les Artes Predicandi, et si l'on suit parallèlement Quintilien, chapitre 11.3, et la rhétorique à Irénus, je suis de l'avis qu'on retrouve les caractéristiques de la manière dont ce texte est débité. Voilà, je ne sais pas si c'est plus clair à l'écran que sur vos exempliers. Donc j'ai cherché une transcription du débit du texte du Triploum qui soit plus parlante, plus évocatrice que la partition musicale. Les transcriptions en notation dite moderne annihilent totalement la pensée rythmique médiévale. Donc on n'y voit strictement rien. J'aurais pu faire une transcription diplomatique en utilisant les signes du manuscrit. Bon, vous pouvez regarder le manuscrit lui-même, hein, mais je pense qu'en mettant simplement les mots, donc là vous avez sur chaque ligne la strophe. Hein, je suis passée d'une ligne à l'autre, d'un tableur à l'autre, par rapport aux strophes. Donc le double slash à la fin, c'est la pause, c'est le silence. Donc j'ai mis verticalement les hauteurs. Donc cette mélodie se déroule essentiellement dans un ambitus de sixte. Do, la. C'est un ambitus relativement étroit. Pas très loin de l'ambitus du débit parlé. Qui s'étend à la note inférieure et à la note supérieure, si en bas et si bémol en haut, qui n'interviennent qu'en termes d'ornement dans la mélodie. Hein, ce n'est pas des notes fortes, c'est juste des notes ornementales, hein, aux deux termes graves et aigus de l'ambitus. Donc déjà, dans les Artes Predicandi, il est dit de régler le ton de sa voix, ni trop haut, parce que ça hérite et c'est inintelligible, ni trop bas, parce que ça devient inaudible. On est typiquement ici dans un registre médium, ni trop haut, ni trop bas. Je viens de dire, c'est l'ambitus de la parole. Do, la sixte, c'est à peine plus large. Alors, je ne sais pas, vous êtes beaucoup plus spécialiste que moi du latin, et j'attends évidemment avec impatience vos suggestions et vos remarques, mais enfin, la langue française, l'ambitus, c'est la quinte. Là, on est à la sixte. Les artes prédicandi, comme Quintilien et la rhétorique à Erénus, disent aussi qu'il ne faut pas faire de transition du grave à l'aigu. Il ne faut pas passer d'un ton à l'autre. Dans cette mélodie-là, on a 218 mouvements conjugués. C'est-à-dire des intervalles de secondes, descendantes ou ascendantes, plus des unissons, il y a des endroits, des mots qui sont quasiment cantillés. On a 7 tierces, 4 quartes, 2 quintes. Et je répète, 218 secondes. Donc effectivement, il y a très peu de transition d'un terme à l'autre de l'ambitus. Très généralement, je fais un peu vite pour ne pas perdre de temps, très généralement, dans les intervalles, le terme aigu de l'intervalle tombe sur l'accent du mot. Moins souvent, mais ça arrive aussi, c'est le terme grave qui est sur l'accent et on saute. Mais dans les trois quarts des cas, l'accent est sur le terme aigu. Ensuite, on trouve donc dans les artes prédicandi ou les traités d'orateurs, certaines transitions du ton grave au ton aigu auront pour effet de changer les dispositions de l'âme. Donc, je vais vous donner quelques exemples. J'ai oublié de dire quelque chose, pardonnez-moi, c'est un peu désordonné. Ce que j'ai grisé, une période sur deux, là, c'est ce qu'on appelle les perfections. C'est-à-dire qu'on est dans une musique mesurée, le tactus tombe sur très régulièrement sur ces barres-là. Bon, ici, il faut que je la rajoute, là. Voilà, ça, c'est la brève. Super KT, c'est la brève. Super KT sur le tactus. Donc quand les syllabes sont plus rapprochées, ce sont des semi-brèves qu'on a justement grâce à ce fameux point de division. Et puis certaines syllabes, vous le voyez, tiennent plus longtemps. Voilà. Donc ça donne, je trouve, une idée du débit quand même assez précise, et j'ai grisé une perfection sur deux simplement pour que ça ressorte à l'œil nu. Donc les transitions. Les tierces tombent sur abis, l'exclamation éloignez-vous donc de. Dérégulariums. Dans la seconde partie, le saut d'intervalle se fait sur les régulariums, alors qu'il est question des réguliers. Et ainsi de suite. Je ne vous donne pas tous les exemples, mais ça fonctionne toujours sur les mots-clés. La quinte. Devobis et rubescit. Rougissez de vous-même. Et on verra en plus que vobis est très étiré, très allongé. La seconde quinte sur regalibus. Les nouveaux prélats sont indûment installés dans les palais royaux. La quarte sur latitat, au tout début. Super cathedra moisi, latitat sub hypocrisie. Se cache. L'autre carte sur nunc, vous qui siégez aujourd'hui, ou maintenant. Sur le plan du rythme, on lit aussi dans les artes prédicandi, le prédicateur doit régler l'allure de sa voix. Pas de précipitation ni d'uniformité. Les ralentissements et les répétitions ont lieu sur les idées ou les mots sur lesquels il est nécessaire d'appuyer pour insister. On doit peser davantage sur les mots qui expriment les idées importantes. Ces mots se placent, outre ce que le prédicateur a choisi, sur le thème, sur les divisions et sur les idées fécondes qui marquent les différentes étapes du discours. Vous voyez que les mots qui sont allongés démarrent chaque début de strophe. On verra, sauf les dernières. Premier conseil, toujours. Donc, les débuts de partie doivent être lents, hein, pour répondre à une certaine convenance. Tous les débuts de strophes, sauf les trois dernières, sont effectivement beaucoup plus lents que la suite des strophes. On doit ménager des pauses assez longues, dit la rhétorique à Irénus, afin de reposer la voix, afin de rendre les périodes plus harmonieuses, et aussi, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, pour laisser à l'auditeur le temps de réfléchir. Si j'ai pu disposer en strophe comme ça le texte, c'est bien parce que chaque strophe finit sur une pause, mais une pause qui vaut une langue imparfaite. C'est-à-dire qu'il y a réellement un arrêt, la dernière syllabe de la strophe est sur le premier tactus de la perfection, et les tactus 2 et 3, c'est le silence. Sur toutes les strophes, sauf l'avant-dernière. Concernant l'organisation du discours, outre les débuts de strophes, le rythme va varier suivant les différentes parties. Le débit rythmique participe de l'articulation du discours et met en valeur les mots et idées importants. Le thème et les autorités sont davantage appuyés, en tout ou partie. Le thème est exposé calmement, en valeurs brèves et longues, sous per cathédrame, comme le recommande Thomas Wiley, et avant lui, pour l'exorde, Quintilien et la rhétorique à Irénus. Dans les autorités sur lesquelles s'appuie chacune des deux divisions, certains mots sont considérablement étirés et mis en valeur. Dans la première autorité, c'est « vobis discum », ce qu'il vous dit. Dans la deuxième autorité, loupi, rapaces, ce sont des loups rapaces, à propos des réguliers. Dans les divisions, à la perfection 22-23, des vobis rougissez de vous-même. 25-26, sur verba, car ces paroles du roi de la vie, vous les voyez par vous accomplies. Perfection 36, ergo, éloignez-vous donc de, hein, c'est là, la conséquence en forme d'injonction. Perfection 43, sur regularium, qui est le sujet de la division. Perfection 59, verbum, comme après la première autorité, hein, on rappelle la parole chaque fois, on l'énonce et ensuite l'auteur la rappelle. Puis sur demonstratus, et enfin sur Santissima, c'est-à-dire, comment dirais-je, l'idéal, hein, le mot le plus positif du discours. Les auteurs Quintilien et la rhétorique et celui de la rhétorique à Irénus disent que sur les autres parties, il faut presser et concentrer le style. Effectivement, hormis ces endroits-là, les vers sont enchaînés sans arrêt. Les rythmes les plus rapides se font sur la jonction des vers. Le discours est soutenu, hein, ça crée une tension. Et d'ailleurs, pour les choses graves, les orateurs indiquent qu'il faut utiliser le mode de la discussion, hein, dans la version soutenue. D'ailleurs, 60% des punctum divisionis tombent sur dans ces endroits-là, hein, et là encore, sur les notes qui sont après l'accent. Pam, 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 pam. Oui, je finis. Enfin, dans la péroraison, le rythme s'accélère encore plus, les débuts de phrases sont rapides, il y a deux mots allongés seulement, demonstratur et santissima, et contrairement à ce qui s'est produit jusque-là, la 13e strophe s'enchaîne directement à la 12e sans le moindre arrêt. Or, selon Quintilien, La péroraison demande un enchaînement de phrases concises et doit s'adapter à son but, ici l'invective. Thomas Wiley préconise plus de véhémence pour inspirer la crainte, et selon l'auteur de la rhétorique à Hérénus, le ton soutenu est salutaire à la fin du discours. Voilà pour ce qui est de ma démonstration, donc je vais m'arrêter tout de suite.
Fin du discours, ça veut dire bien pourtant. Tu viens de dire fin du discours.
Bon, j'attends vos remarques et vos conseils.